l'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Oh yeah, ben merci, merci à tout le monde d'être là autour de cette table si nombreux. Voilà, nous allons faire tourner la table. Faire tourner les tables.
Alors l'émission gay de Radio Pluriel, non c'est ça que ça dit ?
Oui.
On pourrait pas changer en LGBT ?
Ah oui, si, mais il faudrait refaire l'annonce. Il faudrait demander à Benoît Heimann.
Qu'est-ce qu'elle a, Laurence ?
Elle est chier d'entrée de jeu.
Non, mais elle avait. Oui, voilà. Elle a décidé. Mais en ce moment,
elle est désagréable ce soir.
Mais en ce moment, elle s'est muée en lesbienne radicale.
Oui, vachement.
Donc, en tout cas, je suis enchanté de retrouver tout ce beau monde autour de moi. Merci Bernard d'être à la régie. Merci aux auditeurs et aux auditrices. Tu diras après ton mot, d'abord moi. Merci aux auditrices et aux auditeurs de nous rejoindre ce soir pour une nouvelle émission. Vas-y Bernard, c'est ton heure, enfin ta minute.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à nos invités.
Bonsoir Bernard.
Parce que ça, c'est il y a l'écriture inclusive, mais il y a aussi...
Je suis le quota de cette émission.
Voilà. Voilà, la
double quota, femme lesbienne.
Quota rep aussi. Non, c'est pas la même chose, pardon.
Pas loin. Bientôt, ça va pas tarder.
Donc, vous avez entendu la voix, la jolie voix de Jeffrey Jordan.
Mmh,
et sa délicatesse habituelle. Mmh. Voilà, donc il nous revient après des mois d'absence.
C'est vrai que je suis pas venu souvent ces derniers temps.
C'est parce que tu étais un homme occupé.
C'est ça.
Et occupé sur scène.
J'étais en tournée, pardon.
Voilà. T'étais en tournée et tu faisais aussi des tournantes. Non, t'étais
en tournée. Non. Je suis attendu au tournant, mais pas aux tournantes. C'est pas la même chose, faut pas confondre.
Alors avec nous également,
Fabrice.
Ils vont
me faire une sale réputation. Hein.
Mais non, elle est déjà faite depuis.
Je sens que ça va voler bien haut aujourd'hui.
Fabrice Guilbert est de retour avec nous.
Et bonsoir.
Bonsoir.
Ça va bien.
Alors, encore une fois, tu nous viens énervé.
Ah bah ouais, c'est souvent comme énervé. Ça. Je suis souvent énervé.
Ouais,
je viens me défouler ici.
Ouais.
C'est le froid.
C'est ça.
On dira pourquoi tu es énervé tout à l'heure. Je vais présenter, mais est-elle encore présentable ? Laurence. Peut-on encore la présenter ? Non, mais je veux dire.
Oui, bien sûr.
Laurence, ma collaboratrice fidèle depuis des années maintenant.
Oui, alors du coup, dis donc. Alors, j'ai compté. Et bien, du coup, ça va faire 5 ans bientôt, en mars.
Comme le temps passe vite.
Ouais, première fois que je suis venue, c'était en mars. Je ne sais plus la date exacte, mais le 13 peut-être.
J'ai pas vu les années passer.
Moi, je les vois, les années qui passent sur vous.
Mais qu'est-ce qu'il est désagréable ce soir, celui-là, petit effronté.
Je crois qu'on va le mettre dans le placard à balai finira l'émission comme ça. Voilà. Et puis, nous retrouvons Yvan Mitifio. Alors,
Yvan le terrible.
On ne l'avait pas vu aussi plus longtemps à l'émission, mais là, maintenant, on le voit régulièrement depuis la semaine
dernière. J'étais en pleine préparation du festival.
Voilà.
Ça a 9 mois de travail pour cette édition qui va être absolument énorme.
9 mois, t'entends comme la gestation d'un enfant.
Parfait.
C'est long un festival à préparer.
Ouais. Et cette année...
T'interviens quand tu veux.
Donc le festival commence dans une semaine, mercredi prochain. À l'ouverture à l'Institut Lumière, et puis cette année, le festival va durer plus longtemps, 9 jours.
9 mois pour 9 jours.
Oui, c'est ça. 18 lieux.
Un multiple de 9 aussi.
18. Et 3 invités internationaux de premier plan.
Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'ésotérique là-dedans.
Tu crois ?
Ouais. Alors, il s'agit d'écran mix, bien sûr. Là, tu dis.
Oui, bien sûr, du festival Écran Mix qui débute mercredi prochain.
La 8e édition, c'est un festival de cinéma que nous connaissons bien ici, mais qui commence à être connu quand même.
Mais oui, c'est
internationalement.
C'est le festival queer de la métropole de Lyon, puisque maintenant nous sommes métropole. Nous sommes mandatés par la métropole pour nous étendre dans les villes de la périphérie. Et cette année, on s'étend, on propose 3 grands événements dans 3 villes en dehors de Lyon.
Oui, alors c'est ce qui est bien, justement, vous renouvelez ça régulièrement, vous n'êtes pas seulement dans des cinémas du centre de Lyon, mais aussi en périphérie.
C'est l'esprit d'écran mixte, les écrans au pluriel, mixte au pluriel, c'est d'être sur plusieurs écrans, d'aller à la rencontre des gens, de proposer quelque chose de joyeux, d'artistique.
Bron dessine, j'ai vu.
Bron dessine, Sainte-Foy-les-Lyon, et puis de très nombreux arrondissements de Lyon.
Voilà, donc le festival cette année qui se décline toujours sous le même aspect balance entre le patrimoine cinématographique.
Patrimoine, avant-première, inédit, film...
Il y a un mélange d'anciens et de neufs, on va dire.
Oui, et puis aussi de films joyeux, de films un peu plus graves aussi, très militants. Et puis avec...
Quand je dis ancien, c'est de l'ancien, mais refait à neuf. Puisque là, par exemple, le film d'ouverture, Jeanne et le garçon formidable, c'est une copie restaurée, non?
Alors, ce ne sera pas une copie restaurée, mais c'est une copie neuve. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pas tourné cette copie-là.
D'accord.
Donc, vous allez voir Jeanne et le garçon formidable avec une copie qui n'a jamais tourné. Donc, ça va être absolument magnifique. Ce sera à l'Institut Lumière pour les 20 ans du film. Rappelez-vous, on avait fêté les 20 ans des Nuits Fauves. C'est nous qui l'avions fait à écran mixte à l'Institut Lumière. Et là, on refait ça avec Jeanne et le garçon formidable. Donc, la célébration officielle des 20 ans du film, c'est à écran mixte que ça se passe. Il y aura toute l'équipe du film et Virginie Ledoyen qui sera là pour ce film absolument magnifique, qui est à la fois un vrai film cinéphile, puisqu'il est réalisé, vous le savez, en hommage au cinéma enchanté de Jacques Demy. Et c'est aussi un vrai film militant, puisque c'est un film aussi qui rend hommage aux combattants du sida, aux guerriers du sida, qu'ils soient victimes de la maladie ou militants associatifs, puisque au cœur du film, on voit l'équipe d'ACT UP en action.
Donc tu aimes dire que c'est un film d'époque, c'est un film de patrimoine. Donc.
C'est un film d'époque aussi, parce que le film rend vraiment compte d'une époque, ce qu'on appelle les années sida. On est toujours dans les années sida, tant que le virus n'est pas éradiqué, on est toujours dans les années sida. Mais ce qu'on appelle les années sida, c'était l'époque où, d'avant la trithérapie. Voilà.
Où c'était l'hécatombe.
L'hécatombe et le compte à rebours. Ouais. Et donc le film parle de ça. Et c'est un film, on est très heureux d'ouvrir là-dessus. Puisque...
Et ça, c'est à l'Institut Lumière, ça fait l'ouverture du festival le 7 mars, mercredi prochain.
C'est ça, c'est la première fois qu'on ouvre à l'Institut Lumière. Donc ça va être une grande soirée, il y aura un tapis d'invités magnifique.
Mais l'Institut Lumière, je reviens, c'est quand même un partenaire habituel d'écran mixte.
Oui, l'Institut Lumière est un partenaire privilégié et historiquement a accueilli le festival dès sa première édition.
Voilà, mais là c'est la première fois que vous faites l'ouverture à l'Institut Lumière.
Et oui.
Avec Jeanne et les garçons, formidable.
Non seulement on fait l'ouverture, mais en plus ils nous accueillent pour trois soirées d'affilée. Le lendemain, il y aura la première séance de notre invité d'honneur qui est Jean-Pedro Rodrigues, un des plus grands réalisateurs portugais, le réalisateur de O Fantasma, le film culte. Et le vendredi, le troisième jour, ce sera sa carte blanche, un film de Fassbinder, qui lui, effectivement, a été restauré. Ce sera l'année des 13 lunes. Donc trois soirées d'affilée à l'Institut Lumière.
Pour la soirée d'ouverture, donc, est-ce qu'il y aura aussi les réalisateurs Olivier Ducastel, Jacques Martineau seront-ils présents?
Bien sûr, c'est les 20 ans de leur film, c'est leur premier film, c'est avec ce film-là en fait qu'ils se rencontrent. Olivier Ducastel était un militant d'ACT UP et c'est un petit peu leur histoire là qu'il raconte. Le personnage masculin s'appelle Olivier, comme un des deux réalisateurs.
Ouais.
Jeanne, Jacques, on peut faire ce genre d'analogie. C'est un vrai film militant, c'est leur premier film. Et leur deuxième film, c'était Drôle de Félix.
Oui.
Et ils ont suivi bien l'évolution du sida aussi à travers leur filmographie, jusqu'à leur dernier film, Théo et Hugo dans le même bateau, qui parlait donc du sida d'aujourd'hui, quoi.
C'est un film qui a été présenté aussi à écran.
En ouverture. Donc c'est la deuxième fois qu'on ouvre avec un film d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau.
En fait, c'est vrai, c'est ta raison ce que tu dis, Yvan. C'est un film de patrimoine, mais c'est comme en fait, c'est Ducastel et Martineau. Drôle de Félix, je ne savais même pas que c'était eux qui l'avaient fait, ce film.
C'est leur deuxième, ouais.
Mais du coup, moi, ça me rappelle toute la fin de mon adolescence, quoi. Jeanne et le garçon formidable, j'étais allée voir au ciné, je vois 1998. Drôle de Félix, c'est quand l'année exacte?
Je crois que c'est 2000.
2000?
Ouais.
Et c'est vrai que c'est ça, ça rappelle...
C'est des vrais militants, hein.
Ouais, mais ça rappelle des souvenirs, quoi. Et c'est vrai que c'est des vrais films de patrimoine, quoi.
Et quand Drôle de Félix était sorti, c'était vraiment un choc, hein, parce que c'était le premier film qui parlait des trithérapies au cinéma, quoi, de manière joyeuse et décomplexée. Parce qu'il y a ça aussi chez eux, hein. Il y a une manière de dédramatiser, de rendre les choses vivantes et décomplexées, ouais. Mais là, c'est un événement, Jeanne et le garçon formidable. Pour les 20 ans, en présence des réalisateurs et de Virginie Ledoyen. Et il y aura aussi Michel Raskin, metteur en scène bien connu.
Lyonnais,
qui a une scène hilarante dans le film.
Il fait le plombier.
Oui, il le joue.
Une chanson de plombier.
Le plombier formidable. Il sera là aussi. Avec son t-shirt, il a dit qu'il viendrait avec son t-shirt du film. Oh. S'il rentre encore dedans. 20 ans plus tard, enfin.
Donc, du fait, à l'époque, quand le film est sorti, est-ce qu'il avait reçu un accueil favorable du public?
Non, le film n'avait pas beaucoup marché quand il est sorti. D'abord, c'est vrai que c'est un film triste quand même. Hein, c'est Didier Haute-Bétonnier dans le catalogue le rapproche des parapluies de Cherbourg hein, de Jacques Demy. C'est un grand drame chanté. C'est un film joyeux mais aussi grave. Et il n'a pas trop marché parce qu'effectivement, ça finissait pas très bien. Mais aujourd'hui, il faut le revoir, ce film-là. On l'a revu récemment et c'est vraiment un pur régal à revoir. On rit et on pleure aussi.
Puis c'est assez atypique parce que c'est quand même je ne sais pas si on peut dire que c'est une comédie musicale, mais il y a pas mal de parties chantées, etc. Donc ça fait partie des films comme les chansons d'amour, tout ça, qui sont un petit peu hors normes, quoi.
C'est ça. C'est chanté et dansé, celui-là.
Et Virginie, la belle Virginie Ledoyen sera là, donc.
Oui.
Et il y aura une interaction après avec le public à l'Institut Lumière.
Ah, bien sûr. Après, il y aura un grand échange entre le public et toute l'équipe du film, bien sûr. 20 ans plus tard. Et je ne sais pas si Virginie a revu le film. En tout cas, elle était très heureuse de cette invitation aux 20 ans du film.
Alors, on feuillette le très joli catalogue.
Il est très beau.
Alors, ce qu'il faut savoir...
J'aime beaucoup le visuel, moi. C'est ce que je disais à Yvan tout à l'heure. Il est très chic.
Alors, c'est une graphiste lyonnaise. Très connue du monde de la scène et de la musique à Lyon. Elle s'appelle Cara Mia et cette année, effectivement, elle nous a fait un très beau visuel et qui plaît beaucoup. Et notamment la couleur, elle s'est inspirée de la couleur des chansons d'amour. Non, pas des chansons d'amour.
Moi, ça me fait penser à l'affiche du dernier film avec Florence Foresti où elle joue une femme qui se bat contre le cancer.
Ah oui.
De plus belle. Ça me fait exactement penser à ça.
Donc voilà, on a voulu donner aussi un caractère féminin. Cette année, on a une trentaine de metteurs en scène et sur ces 29 metteurs en scène, il y a 15 femmes. Donc il y a une évolution qui se fait dans le milieu du cinéma et nous, on est là aussi pour rendre compte de ça. Il y a beaucoup de femmes réalisatrices, pas que de documentaires, mais de beaucoup aussi de fiction, notamment une avant-première absolument magnifique d'un film incroyable qui s'appelle « Nobody's Watching ». L'histoire d'un homme qui reboote sa vie à New York, qui recommence à zéro, un film, une espèce d'errance, poésie errance magnifique qui se sera en sa présence. La réalisatrice vient spécialement d'Argentine pour présenter le film et ce sera aux Alizés, puisqu'on a réservé parmi les plus belles séances, on ne les a pas forcément cantonnées au centre-ville. Au contraire, les plus belles séances, on les a mis presque volontairement, en périphérie, c'est un acte aussi militant.
Ouais. Et en fait, bon, comme toutes les années, le Festival Écran Mixte donc, a des invités, fait des coups de projecteur sur certains artistes. Les œuvres qui sont présentées sont des formats divers et variés. Il y a du documentaire, du film de fiction, il y a du court-métrage, du long-métrage, des films français, étrangers.
Du expérimental, il y a même, un film hardcore porno cette année. Donc c'est vraiment un éventail très large. Il y a à la fois du cinéphile et à la fois du militant. Il y a à la fois du complètement déjanté. Alors cette année, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait une rétrospective d'un réalisateur très important qui est Jean-Pedro Rodrigues, qui est un des plus grands réalisateurs portugais. C'est le réalisateur mythique de Fantasma. Il vient donc pour une rétrospective. Et il y a aussi deux autres rétrospectives. Cette année, on en a trois. Il y a Monica Treut qui vient. C'est une des plus importantes cinéastes queer au monde. Elle est allemande, elle est un petit peu de la génération de Rosa von Pronheim. Elle vient de l'underground, c'est une autodidacte et elle a toujours énormément travaillé sur la question du genre. Maintenant, son cinéma est beaucoup, beaucoup plus classique et on sera là pour une masterclass au Goethe-Institut ainsi que quatre séances de cinéma. Trois au Goethe et une en salle.
Un masterclass en allemand traduit en français?
Oui, ça sera ça, c'est une masterclass en allemand traduite en français. Ce sera le directeur du Goethe-Institut en personne qui traduira. Et la masterclass sera animée par Jean-Sébastien Chauvin, des Cahiers du cinéma. Donc ce sera très intéressant. Donc venez rencontrer Monica Treut, venez découvrir son cinéma. Ce sera le vendredi du festival, masterclass suivi d'une projection. Et le lendemain, il y aura encore deux projections au Goethe-Institut.
Alors, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que vous avez votre partenariat avec aussi le Goethe-Institut, ce qui fait que chaque année, il y a toujours... L'Allemagne est toujours présente au festival, en fait.
Oui, parce que l'Allemagne a toujours été présente dans le cinéma queer depuis quasiment la naissance du cinéma.
Ouais.
Le premier film homosexuel au monde, il est allemand. Les films lesbiens les plus importants, comme Jeune fille en uniforme, ça vient d'Allemagne.
Que Laurence rêve de voir, mais avec Romy Schneider.
Ah, moi, j'ai la version Romy Schneider.
Alors, il est un peu cucu, la version 58. Un peu nunuche.
Non, il est édulcoré.
Par contre, la version 31, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était le plus gros succès mondial du cinéma, ce film-là. réalisé par une femme en plus. C'est un film très intéressant. Et puis Victor und Victoria, hein, ils étaient les premiers à parler aussi des
questions. Ce sont des films que vous avez diffusés, du coup.
C'est tous des films qu'on a passés. Donc avec le Goethe-Institut, on fait vraiment un panorama de toute la représentation de l'homosexualité et du genre au sein du cinéma allemand, parce que c'est absolument passionnant. Ils ont été à la pointe de tout. Et après, donc après, effectivement, il y a la guerre. Mais dans les années 70, il y a eu ce qu'on appelait le nouveau cinéma allemand, avec des cinéastes comme Fassbinder, comme Werner Schroeter, comme Monika Troeut, elle qui est une enfant de cette nouvelle génération. Et le cinéma allemand continue à produire des choses absolument incroyables, point de vue queer. Donc c'est pas la fin du partenariat, au contraire, chaque année on va l'explorer. Et cette année, c'est quand même 4 événements qu'on fait au Goethe.
Et l'année des 13 lunes donc de Fassbinder, donc cinéma allemand, c'est le choix de João Pedro Rodrigues, qui est portugais et qui bénéficie donc d'une carte blanche et d'une rétrospective à Écran Vis, comme tu disais.
C'est ça, chaque année on donne une carte blanche.
Qui dit rétrospective, il arrive avec plusieurs de ses films en fait.
Rétrospective, on essaie de montrer tous les films à chaque fois. Ça a été le cas d'Alain Guiraudy, ça a été le cas de Panos Kouteras, ça a été le cas de Jonathan Cahouette, bon, qui n'a fait que deux films. L'année dernière, Jonathan avait eu deux cartes blanches, Beautiful Thing et Poison, de Todd Haynes. Et cette année, Jean-Pedro, c'est magnifique. On l'a revu en 35 mm l'année dernière, salle pleine. Cette année, Jean-Pedro a choisi Fassbinder. Donc, et ce film est un peu en ouverture d'une rétrospective qui va avoir lieu à l'Institut Lumière. Donc cette séance est un petit peu la première séance de cette rétrospective, en pré-ouverture de cette rétrospective. C'est un des plus beaux films de Fassbinder. Ça fait partie du sommet de 3-4 films absolument fabuleux qu'il a réalisé coup sur coup au même moment. Faut savoir, Fassbinder, 37 ans, à peu près 37 films, hein, donc c'est absolument incroyable. À 30 ans, il avait fait 30 films. L'année 13 lunes, vous allez le revoir en copie restaurée à l'Institut Lumière, et Jean-Pedro viendra nous dire en quoi ce film a influencé son œuvre et son esthétique.
Alors cette année,
si je me trompe, mais j'ai l'impression que cette année, il y a une belle place aux personnages trans, non ? Il y a énormément de films.
Ouais. Oui, et puis alors notamment au point,
ce qui
de
est
vue,
très bien.
Au point de vue fiction, on projette peut-être la plus belle fiction que j'ai jamais vue, moi, trans FTM, MTF, pardon, c'est Close Knit, un film japonais. C'est un film qu'il faut absolument voir, il passe dans une petite salle, il passe aux lumières fourmis. C'est la seule occasion que vous aurez de voir ce film, puisqu'il ne sortira jamais en salle. Il n'est même pas sous-titré, il a été sous-titré par le festival Kinotayo, à qui nous avons donné une carte blanche, le festival Kinotayo. C'est un festival de japonais de cinéma contemporain. On a vu ce film chez eux, on l'a trouvé absolument magnifique. Et donc du coup, on leur a donné carte blanche pour qu'on puisse reprojeter ce film. Ça s'appelle Close Knit, c'est l'histoire d'une famille recomposée, une jeune gamine qui se fait abandonner par sa mère et qui atterrit chez son oncle qui vit avec une femme trans. Et va se créer des liens très très forts dans cette nouvelle famille recomposée, jusqu'à ce que les services sociaux et la société s'en mêlent pour tout gâcher, comme d'habitude. Venez le voir, c'est Close Knit. Pour moi, c'est la plus belle fiction trans que j'ai vu de ma vie, vraiment.
Alors le Portugal, pour revenir au Portugal, est bien représenté, puisque tu parlais des courts-métrages, tu parlais de la carte blanche qui est donnée donc au Festival Queer de Lisbonne. L'équivalent d'écran mixte à Lisbonne, donc.
Alors, en écho à la venue de Jean-Pedro, on a décidé de donner carte blanche à Queer Lisboa, qui est le plus grand festival queer d'Europe, pour l'instant, comme je dis souvent.
Carrément.
C'est le meilleur festival queer d'Europe. On leur a donné une carte blanche et ils ont choisi un programme exceptionnel de films portugais et brésiliens, le meilleur de la production de 2017. C'est un programme magnifique. On fait venir le directeur artistique du festival qui viendra présenter les films. On les a fait sous-titrer par les étudiants de l'université Lumière Lyon 2. Et ce sera un programme à ne rater sous aucun prétexte. C'est le samedi du festival à Lumière Bellecour. Il y a une chose qu'on veut dire par rapport aux réservations de films. Vous savez que les séances à écran mixte sont toujours pleines. C'est toujours un monde fou. Par contre, beaucoup de gens ne peuvent pas rentrer dans les salles. Tout simplement parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les salles, on compte beaucoup sur les préventes. S'il y a beaucoup de préventes, les cinémas prévoient deux salles. On peut doubler les séances. Avec le numérique, on peut passer les films dans deux salles simultanément. Donc, venez préacheter vos places, parce que si vous venez au dernier moment, le cinéma ne réservera pas deux salles, mais qu'une seule. Et donc, du coup, il y a autant de gens dehors que dedans. Malheureusement, le public LGBT ne réserve pas beaucoup à l'avance par rapport à d'autres publics. Ça, on s'en est rendu compte. En tout cas, ce programme de court-métrage portugais est absolument exceptionnel. On sait que ça va être blindé. Donc, n'hésitez pas à réserver votre billet, puisque vous allez passer un très grand moment. Et le troisième invité, c'est Bruce Labrousse. C'est une légende vivante. C'est, on peut dire, c'est un peu le fils spirituel de John Waters. C'est un cinéaste qui vient de l'underground. C'est un cinéaste canadien qui s'est fait connaître avec son deuxième film qui s'appelait Hustler White, qui est un film culte. Ouais. Il ne cesse de faire du cinéma. C'est un cinéaste extrêmement politique qui réalise aussi pas mal de porno. C'est lui qui avait réalisé aussi Hey les zombies. Je ne sais pas si vous vous rappelez
avec
de
François Saga.
Oui,
dans le rôle du zombie.
Et cette année, il vient pour deux de ses fictions. Sa dernière fiction, qui s'appelle The Misandrist, qui est une comédie délirante et barrée sur un groupe de lesbiennes radicales qui veulent faire la révolution et castrer tous les hommes et renverser le patriarcat par la violence. C'est tout à fait.
Je ne suis pas encore là. Hein,
tu vois. Mais tu prends le chemin, hein, je te dis. Hein.
C'est une comédie féministe hardcore très drôle. Ouais. C'est son dernier film. Il sera au Comédia en sa présence. On passe un film quasiment inédit de son œuvre, son deuxième film qui s'appelle Super 8 et demi. Une biographie édifiante. C'est un film à la frontière du porno aussi. C'est un journal intime. Expérimental, très sexy et drôle. Et surtout, on l'invite pour un documentaire qui s'appelle Queercore. Là, il va y avoir énormément de monde. Queercore est un documentaire sur la naissance du mouvement anarcho-queer dont il est l'initiateur et le chef de file. C'est un documentaire. Dans ce documentaire sont interviewés John Waters, lui-même, Genesis Peerage, et lui sera là pour cette séance exceptionnelle de Queercore au Comédia. Et cerise sur le gâteau, il vient présenter son dernier film porno, avec François Saga notamment, au Lavoir Public. Donc c'est son dernier porno, il nous le montre en exclusivité à Lyon, sauf qu'il nous a demandé de ne pas révéler le titre, puisqu'en fait il va faire une projection officielle à New York.
D'accord.
Et officiellement, ce sera la première projection à New York. Mais nous, ils nous ont fait cadeau. Donc, en fait, on a appelé ça Panchette Surprise. C'est Olivier Rey du Lavoir qui a trouvé ce titre. Donc, en fait, vous allez voir au Lavoir Public le dernier film porno de Bruce Labrousse en exclusivité. Et il sera là. Autant vous dire qu'au Lavoir Public, il va y avoir énormément de monde. Commencez à réserver, puisqu'on aimerait bien doubler la séance aussi pour que tout le monde puisse rentrer.
Et François Saga, il sera là?
Non, il ne sera pas là. Non. Il y a Bruce Labrousse. C'est un partenariat avec le festival Only Porn qu'on fait ça. N'hésitez pas à réserver auprès du Lavoir.
D'accord. Alors, ce qui est marrant, c'est que le livret, quand on l'ouvre comme ça, hop, on tombe tout de suite sur la photo de Bruce Labrousse qui tient un Godemichet dans la main.
Eh ben, c'est ce qu'on s'est rendu compte lors du lancement du catalogue chez Agnès B il y a 3 semaines. Tout le monde avait un main, tout le monde avait cette photo de Bruce Labrousse avec un God à la main. On était très gênés parce qu'il y avait beaucoup d'élus, beaucoup de partenaires.
Il y avait Christine Boutin qui passait par là, qui faisait ses courses.
On n'a pas fait attention. En tout cas, c'est très bien, c'est un peu rock'n'roll. Parce que c'est un festival aussi militant, cinéphile, mais aussi très rock'n'roll. C'est un festival dans lequel on s'amuse beaucoup, à l'image de la bande-annonce que nous a réalisée Jonathan Cahouette, et qui tourne actuellement dans tout le réseau TCL pendant une semaine.
On peut voir sur les télévisions, sur
génial.
Les écrans, trams et du métro.
Ça égaye un peu les TCL.
Alors, ce catalogue, vous le trouvez dans les salles partenaires, vous le trouvez dans le cinéma Lumière, vous le trouvez dans les bibliothèques, vous le trouvez au Comédia. Il y a beaucoup de choses. Il y a 60% de projections en plus, 3 rétrospectives, beaucoup de patrimoine, beaucoup de documentaires, et en tout, il y a quand même 9 événements gratuits, parce qu'on est très attaché aux événements gratuits. Il y a 2 masterclass gratuites et 7 projections gratuites, notamment en bibliothèque et au Goethe Institut.
Au total, c'est combien d'œuvres qui sont présentées?
Là, c'est 40 cette année. Avec les courts-métrages, ça fait 45, mais on est sur 40 projections.
On peut dire qu'avec ça, il y en a pour tous les goûts, en fait.
Il y a tout, il y a du féministe, il y a du queer, il y a du trans, il y a de la fiction, il y a du documentaire. Vraiment, on peut vraiment s'éclater. Et effectivement, comme l'a dit Laurence, il y a une attention particulière sur les questions trans, notamment avec un documentaire magnifique qui s'appelle Martha P. Johnson, Histoire d'une légende, histoire d'une femme trans pionnière de Stonewall, héroïne de Stonewall, qui a été retrouvée morte dans les années 90. Dans
c'est elle qui aurait jeté la première pierre, justement.
Oui.
Je pensais que...
J'allais dire une bêtise. Mais...
Ouais. Non, mais oui.
C'est un grand film.
C'est une sorte de messie, le messie des LGBT.
Ah ben, c'est une héroïne. Masha P. Johnson est une femme trans noire. C'est une icône. Et elle a été retrouvée assassinée. Et c'est un grand film enquête sur sa mort. Et ça a été sous-titré, encore une fois, par les étudiants de Lyon 2. Ça fait partie des développements du festival. Cette année, on est vraiment en partenariat pour la première fois avec l'université. Les étudiants nous ont traduit les films. C'est un travail de fou parce que ce sont des films américains où ça parle, des vrais moulins à parole. Ils ont fait un travail remarquable. Et avec le Master Genre, cette année, on lance aussi un journal du festival. C'est la première fois qu'on fait ça. Tous les deux jours, il y aura une publication.
Alors, c'est un journal papier ?
C'est un journal papier qu'on distribuera aux spectateurs et qui annoncera les films à venir. Dans chaque journal, il y a une interview d'un artiste et un portrait et aussi des petites critiques des classiques ou des documentaires.
Alors, avant de lancer la pause, enfin la chanson, je voulais simplement préciser aussi, puisqu'on parlait de films concernant films et documentaires sur les personnes transgenres, vous repassez, je dirais, Kobe au Festival Écran Mixte.
Oui.
Voilà, je peux faire le malin parce que c'est le seul que j'ai vu de tous les films qui sont présentés. Et c'est un film, un excellent documentaire, un film documentaire, donc sur une transformation, cette fois-ci, femme vers homme.
C'est ça, c'est l'histoire de Kobe, en fait, qui se raconte et qui est racontée par son demi-frère. Quand on l'avait passé au Comédia, effectivement, le film n'avait pas encore de distributeur. Il va sortir fin mars, donc c'est une avant-première. Pour ceux qui n'ont pas vu ce très beau film...
C'est à voir, c'est impressionnant.
Ce sera
émouvant.
Et ce sera à Sainte-Foy-les-Lyon, en présence du réalisateur, avant-première.
Bien, alors tu nous as préparé la musique, la pause musicale, tu vas nous dire de quoi il s'agit. Oui, on avait dit qu'on chantait, c'est vrai, t'as raison. Non, on va éviter.
Parce qu'il m'a pris.
Donc, que nous as-tu amené, mon cher Yvan ?
Je vous ai amené un extrait de la BO des Garçons Sauvages, un deuxième extrait. La semaine dernière, j'avais amené un premier extrait.
Moi,
là, c'est la
chanson.
C'était Nina.
Ils sont complètement folles, hein.
C'est Nina Hagen, c'est pour ça.
Mais oui.
Et, cette semaine, c'est le morceau de fin du générique du film. C'est un morceau absolument génial, de style krautrock, le rock expérimental, électronique, allemand des années 70. C'est dans ce style-là.
Genre Kraftwerk et compagnie.
C'est ça. Okay.
Alors, on reviendra après la chanson sur le Festival Écran Mix. On n'en a pas terminé. Et puis, je passerai aussi la parole à Fabrice Gilbert, parce qu'il est très énervé.
Non, mais le titre de la chanson.
Ah, bah oui. Bah attends, oui, c'est quoi ? Vas-y.
Il ne sait plus.
Il sait plus. Voilà. Bon,
quel beau lancement. On sent que ça devient de plus en plus professionnel.
On coupera au montage.
Voilà.
Pas de bol, c'est en direct. Elle n'a encore rien compris. Ça fait 5 ans qu'elle est là, mais elle n'a pas compris.
Pour le podcast, espèce d'effronté. Ah. Il est cul.
Bon, Bernardo, si tu peux envoyer.
J'ai un conseil à vous donner, mesdemoiselles. Ne soyez jamais vulgaires. I want to be a wild girl. Just wild girl on the way. In the sun, all the way. Always girl, always wild. Go away in the violet light. Wild.
La seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Alors,
Ils l'ont déjà changé.
Ils l'ont changé. Par contre, tu sais que j'ai eu un petit message sympathique de Radio Canu.
Oui.
Parce qu'ils ont aussi une émission, ils ont une émission qu'ils appellent, eux, l'émission Transpédéguine, qui est plus une émission féministe, oui. plus radicale.
Bon,
dans le ton Radio Canu. Et donc, c'est deux fois par mois, je crois. Mmh. Et voilà. Ils m'ont dit, mais non, mais...
Ils ont gueulé encore, non ?
Non, mais gentiment.
Il y a une émission sur Radio Cunu aussi, mais c'est une autre... Ouais.
C'était Jeff et Jordan.
Merci.
Il n'y a pas un petit jingle, non ?
Je ne peux pas saluer, c'est à la radio, mais...
Bon, allez, Fabrice est énervé. Pourquoi ? Il a le poil hirsute par un énervement.
Ah, toujours.
Ouais, toujours.
Ah, je croyais que son coiffeur était mort, mais non, c'était les poils.
C'est le bonnet, ça, c'est le bonnet, on s'en plaignait tout à l'heure. Alors, vous en avez peut-être entendu vaguement parler entre 2 heures de commentaires sur l'héritage de Johnny Hallyday et des interminables reportages sur le fait que, en hiver, oui, il neige. Mais il y a 3 semaines, le tribunal administratif de Nantes a purement et simplement supprimé les subventions versées par la ville au centre LGBT de Nantes, le NOSIG. 22 000 euros qui devaient servir à financer les locaux et payer les salariés du centre ont ainsi été supprimés. Mais pourquoi au juste ? Alors, accrochez-vous aux poppers, je vais retirer le plug. Le tribunal de Nantes a considéré, je cite... que la lutte pour l'accès et l'égalité des droits personnels et sociaux LGBT, tout comme le fait de communiquer ou appeler à manifester en faveur de l'élargissement des conditions d'accès à la PMA et à l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, était une activité politique et par conséquent inéligible à la subvention. Le tribunal a également considéré que le simple fait d'organiser une conférence sur la GPA où était présent dans la salle un couple y ayant recouru était purement et simplement illégal. Non, je n'ai pas exagéré, c'est le texte même du jugement du tribunal. On reproche donc à la ville de Nantes d'avoir subventionné une association qui lutte pour l'égalité des droits des homosexuels. C'est comme si on reprochait à SOS Racisme d'être contre le racisme. On retire donc en 2018 la subvention d'un centre LGBT au motif, entre autres, qu'il était pour le mariage pour tous avant que celui-ci ne soit voté en 2014. Comme si on retirait aujourd'hui les subventions du planning familial au motif qu'il défendait le droit à l'avortement avant que celui-ci ne soit voté. Immédiatement après ce jugement, des représentants de la Manif pour tous se sont précipités pour contester les subventions de plusieurs centres LGBT et autres associations organisant des marches de fierté, comme par exemple à Marseille. Je vous rappelle que c'est pour les mêmes motifs que notre mascotte adorée aux cheveux gris et aux 50 mots de vocabulaire Laurent Wauquiez, nommé la Wauquiette, a subitement supprimé la quasi-totalité des subventions aux festivals et associations LGBT en région l'année dernière, dont Écran Mixte, le centre LGBTI de Lyon ou la Marche des Fiertés de Lyon. Mais bon, bizarrement, il a continué à subventionner des mouvements aussi apolitique que le MEDEF, des lycées catholiques et même un établissement hors contrat, c'est-à-dire une école dans lequel le programme de l'éducation nationale n'est pas appliqué, pour excuser du peu 250 000 euros attribués à Espérance Banlieue. Ah bah ça, de l'espoir, il va nous en falloir. Et la vice-présidente de Laurent Wauquiez, en charge de la question, n'est autre que l'ancienne responsable de Manif pour tous, qui se félicite de cette subvention pour une école où on vit comme dans les années 50, où entre les cours, les filles font la vaisselle ou passent le ballet tandis que le garçon joue au foot. Mon pauvre Laurent, il va falloir arrêter 5 minutes de nous prendre pour des cons. La première association LGBT lyonnaise, c'était ARIS, fondée en 1981, lorsqu'être homosexuel était encore un délit. ARIS est ensuite devenu le centre LGBTI que nous connaissons, situé rue des Capucins. Un centre LGBT est un lieu d'accueil, de visibilité, mais c'est aussi un lieu de débat, un lieu de culture, un lieu de mémoire. C'est grâce à ces associations que le PACS puis le mariage ont été patiemment conquis sous les insultes homophobes. C'est grâce aux associations et non au pouvoir public que des traitements contre le sida sont trouvés et améliorés. Oui, c'est parce que les associations maintiennent la pression que j'espère que la PMA sera enfin élargie. Et oui, la GPA doit faire partie du débat, d'un débat serein, mais où chacun a la parole, c'est ça la liberté d'expression. Qu'on le veuille ou non, des enfants français sont nés avec cette méthode. Ils ont des parents. Supprimer les subventions aux centres qui essayent d'apporter une réponse à leurs questionnements ne supprimera pas cette réalité. Parce que le rôle des associations, ce n'est pas de servir la soupe aux politiques, mais bien d'aider à aiguiller, de dénoncer, de revendiquer. Et c'est bien pour cette raison qu'elles doivent être subventionnées lorsqu'elles combattent des inégalités, et ce, sans qu'un tribunal ait à juger de la légitimité de leur action. C'est ce que M. Wauquiez et ses petits copains de la Manif pour tous ne supportent pas, et c'est bien pour cela que le jugement du tribunal administratif de Nantes nous concerne tous. Parce que derrière ces attaques incessantes de la Manif pour tous et autres civitas contre les populations LGBT, il y a un inquiétant courant de conservatisme qui vise à nous classer comme citoyens pathogènes dont le simple fait d'exister pourrait anéantir notre civilisation. C'est le retour de l'obscurantisme qui nous pend au nez et fait monter un peu partout dans le monde l'extrême droite. Alors cher Gwyn, cher PD, cher trans, il est urgent de faire entendre nos voix, qu'elles soient nasillardes, pas assez féminines, suspicieusement graves ou follement chantantes, il faut faire front et rester fier de ce qu'on est dans notre diversité et notre singularité. Sinon, dans moins de temps qu'il n'en faut pour se faire bloquer sur Grindr, il n'y aura plus personne pour en parler.
Et bien voilà, bravo pour ce coup de gueule. Effectivement, on peut s'inquiéter, effectivement, de la suite des répercussions que cela peut avoir. La Manif pour tous, donc, qui fait du lobbyisme, notamment dans les réunions de la bioéthique, on en parlait la semaine dernière. Quand je dis les réunions de la bioéthique, il s'agit des consultations dans le cadre de la révision de la loi bioéthique, etc. Notamment à Lyon, demain, il y a la PMA vers une nouvelle conception d'humanité. C'est le thème du débat.
Mais
la mairie du 8e.
À la mairie du 8e, il fallait s'inscrire et apparemment
ça a été complet assez rapidement.
Très rapidement, voilà. Et on sait par ailleurs, puisque SOS Homophobie a envoyé un message à ce sujet, publié un message quoi sur les réseaux sociaux expliquant que la Manif pour tous cette fois-ci utilisait un lobbyisme très particulier, c'est celui d'investir en fait toutes les discussions les consultations liées donc à travers la France à la révision de la loi bioéthique. Voilà. Donc si vous entendez parler d'événements lié à cette loi de consultation, etc., précipitez-vous sur le site. Pour Rhône-Alpes, c'est herrera.com, ça s'appelle. Hein. Mais bon, pour demain, c'est trop tard. On peut plus y aller. Ou alors, on y va, malolo.
On peut quand même y aller.
Voilà,
après,
puis,
je sais pas comment
avec
ça
nos
passe,
pancartes. Voilà, bref.
Alors, contre-manif. Ouais.
Voilà. Ce qui est intéressant aussi, dans ce que disait Fabrice, donc, c'est qu'il nous parlait de Lolotte. Non, pardon, de la Vauquiez. Parce que Lolo veut pas que j'appelle comme ça, parce que c'est son surnom. De la Vauquiez. Moi, je dis la Vauquiez. Toi, tu dis la Vauquiette.
La Vauquiette, vraiment.
Ah, la Vauquiette. Moi, j'appelle la Vauquiez. Enfin, bref, peu importe.
Moi, je dis la grosse merde.
C'est bien, c'est pas parti pris.
Non, pas du tout. Par contre, quand j'ouvre le catalogue des grands mixtes, après avoir passé donc le Godemichet de Brest-la-Bruce, j'arrive à la fin. Et que vois-je ? Parmi les remerciements, bon, mairie de Lyon, bon, d'accord, adjoint à la culture de la ville de Lyon, et tout à coup, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors Fabrice, comme il le rappelait dans sa chronique, Laurent Wauquiez a supprimé, le conseil régional a supprimé l'année dernière les subventions de nombreuses associations LGBT, dont le festival Écran Mix.
Bien
Mais
sûr.
Que se passe-t-il donc? Pourquoi est-il là dans le catalogue?
Vas-y, écoutez, il s'est ravisé. En fait, voilà, la région est revenue eu égard à la qualité du festival et à la qualité de la programmation et de la qualité de nos invités. Voilà.
Tout simplement.
Il a vu le gars de Michel Bruce, il a dit moi je m'inscris, les gars.
C'est ça. En fait, c'est ça, c'est le gars de Michel qui a tout fait.
Il a écouté la balance. Ouverture à l'Institut Lumière, sur Jeanne et le garçon formidable, grande rétrospective, invitation à un grand festival européen, une des plus grandes réalisatrices au monde qui vient, beaucoup d'avant-premières, des salles prestigieuses. Voilà.
Alors, on va parler des filles, justement, puisqu'elles sont présentes. Les thématiques femmes sont présentes aussi au Festival Écran Mixte chaque année. D'ailleurs, le Festival Écran Mixte se déroule à partir du 7 mars. Toutes les années, c'est le hasard, je ne sais pas, mais en tout cas, le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes.
Ça a été voulu comme ça, hein, que le festival
D'accord.
se tombe toujours autour du 8 mars. Alors cette année, c'est un film très militant qu'on va passer. C'est un documentaire allemand qui date de 2014, qui s'appelle Vulva 3.0. C'est un film autorisé à partir de l'âge de 16 ans, tout de même, qui sera en bibliothèque municipale de Lyon, en partenariat avec le Point G. C'est un documentaire qui parle en fait de la représentation de la vulve à travers l'histoire de l'art et l'histoire de l'humanité, comme quoi le sexe de la femme a toujours été caché, invisibilisé par rapport au sexe masculin qui lui est montré sur les statues et compagnie. Donc c'est un documentaire vraiment passionnant avec des scènes de représentation quand même de sexe féminin. C'est pour ça qu'il y a une autorisation à partir de 16 ans. Et c'est un documentaire très militant pour le coup, qui sera donc projeté à la bibliothèque municipale de Lyon le 8 mars. Et il y aura nos amis de Fris qui viendront discuter après le film avec le public.
Mais une grande artiste aussi et fait partie des invités du festival, Émilie Jouvet.
Émilie Jouvet est une icône auprès des lesbiennes. C'est une artiste passionnante, très militante aussi. Et là, elle vient de faire coup sur coup deux films. My Body, My Rules, qu'on avait passé en ouverture de Only Porn. Et puis un documentaire qui s'appelle Aria, qui parle de sa propre expérience.
Son parcours de PMA et les tentatives et après sa grossesse. Aria, c'est le prénom de sa fille, qui est née en juillet 2016. Et donc c'est un film, il faut le préciser, qui est filmé avec son portable, ouais. Avec un smartphone. Voilà, donc il y a de plus en plus de réalisateurs qui se mettent
oui,
à ce
Et ça donne des résultats surprenants, souvent,
ah bah là,
sur grand écran.
Là, t'as pas l'impression, voilà, t'as l'impression que c'est une caméra numérique.
Ah bah quand on a l'œil, on a l'œil. Hein.
Ouais.
Et donc, c'est en caméra subjective, c'est-à-dire qu'Émilie, on ne la voit jamais. On voit ou son ventre, ou ses pieds, ou ses mains. On ne voit rien d'autre. On l'entend à peine. On entend quelquefois qu'elle pose des questions aux personnes qu'elle, qu'elle interview, mais ça s'arrête là. Et du coup, c'est, voilà, c'est son parcours de PMA, les allers-retours en Belgique, les tests d'ovulation, la prise d'hormones, etc. Et surtout, en fait, le film, c'est une succession de témoignages de personnes, pour la plupart des femmes, vu que Émilie Jouvet, c'est une cinéaste, une photographe, une réalisatrice, une excellente photographe d'ailleurs, photographe, réalisatrice, qu'on pourrait qualifier de queer, qui s'intéresse toujours au, à la représentation du corps féminin, surtout, ou du corps trans. Et du coup, bah, elle part, voilà, elle rencontre, en général, c'est des gens qui sont proches d'elle. Des amis ou des personnes avec qui elle a l'habitude de travailler ou des personnes très très proches. Et du coup, voilà, elle pose son smartphone. En général, les gens discutent avec elle et rentrent un peu en communion avec elle par rapport à son ventre. Voilà, je crois que les trois quarts en fait des personnages, ils posent les mains sur son ventre ou l'oreille. Il y a deux enfants aussi d'ailleurs qui participent au film. Et donc voilà, ils partagent en fait leur expérience avec elle. Donc il y a certaines femmes qui ont aussi connu les parcours de PMA, la volonté de la maternité, le rapport à la maternité, directement ou indirectement. Et du coup, c'est... en fait, c'est super simple. C'est super simple. Mais c'est très enrichissant. Parce qu'on voit qu'une femme... enfin une on va dire une personne, quoi. Quelle que soit cette personne-là, bah, au final, il y a juste en fait un désir humain d'avoir un enfant. Mais qu'on le porte ou pas, c'est pas forcément un désir de grossesse. Il y a des témoignages dans le film d'Émilie Jouvet où on voit que la maternité, c'est quelque chose de plus complexe que ça. C'est pas seulement juste le fait de porter un bébé, d'être enceinte et d'accoucher, etc. Et il y a aussi, je disais, il y a deux enfants qui participent au documentaire d'Émilie Jouvet. Et c'est là que c'est génial, parce que ces deux enfants qui sont nés, qui ont été élevés dans des familles homoparentales, des couples de femmes, et on voit en fait à quel point pour eux, mais c'est super simple, quoi. Et qu'en fait, c'est les adultes, certains adultes, qui créent des problèmes à tout ça, qui créent des oppositions, des barrières à la PMA, à la maternité pour toutes les femmes, etc. Eux, ils parlent des personnes qui les ont élevées et qu'ils aiment. Point. C'est pas plus compliqué que ça.
Et c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, qu'il y a une espèce de nature profonde qui est là, qu'un homme ça va avec une femme et que l'enfant serait forcément perturbé si jamais le schéma n'est pas là. Et on se rend compte que les enfants, les bébés, ils ne sont pas du tout dans ce truc-là.
Ah,
et
qu'avant
qu'on leur inculte des dogmes hétéronormés, en fait, tout va bien dans le meilleur des mondes.
Mais exactement. Mais eux, ce qui est génial, c'est que c'est... mais on dit vraiment la vérité sort de la bouche des enfants. Mais là, dans le documentaire d'Émilie Jouvet, c'est vraiment ça. Ils parlent vraiment, ils sont sans filtre, les enfants. Du coup, c'est vraiment... c'est super sincère, quoi. Ils parlent de leur maman, voilà, de leur maman trans. Enfin, et c'est ça aussi. C'est vraiment c'est une belle expérience, parce que ce que j'ai trouvé aussi, c'est généreux avec ce documentaire. C'est pas juste Émilie Jouvet qui parle de son parcours compliqué pour la PMA. C'est long, c'est chiant, c'est douloureux. Qui parle juste de sa grossesse et de son bébé à venir. C'est aussi qu'elle partage... avec d'autres, elle permet à d'autres de partager leur expérience sur tout ça.
Ah ben ça, c'est beaucoup le travail d'Émilie Jouvet, hein, qui s'intéresse beaucoup aux autres. My Body, My Rules, c'était ça. Hein, elle filmait des performeuses. Elle filme les autres. Et c'est vraiment quelqu'un de très ouvert sur les autres, Émilie. Et la séance sera suivie d'un débat avec l'APGL Auvergne-Rhône-Alpes, dont tu fais partie.
Oui.
Et c'est toi qui animeras le débat.
C'est moi qui animerai le débat, oui, voilà. Donc après la projection...
Avec Émilie.
Avec Émilie, voilà. Je pense que pas mal de gens auront des questions, l'interrogeant sur son travail. Donc voilà, je vais animer tout ça, avec grand plaisir.
Oui, j'ai appris ça avec surprise. Petite cachotière, tu me l'avais caché. Et c'est dans le catalogue.
Là, c'est pareil, il va y avoir beaucoup de monde. Alors, si vous voulez que tout le monde puisse rentrer, prenez bien vos places à l'avance. Comme ça, on peut débloquer une deuxième salle.
On n'a pas pu parler de tout, évidemment, parce qu'il y a 40, plus de 40 œuvres présentées.
Non, mais il y a un documentaire sur Jean Genet, à la Bibliothèque municipale de Lyon.
Que j'ai vu aussi, dire entre parenthèses, je tiens à le préciser, que j'ai trouvé très intéressant.
Ah, tu l'as vu à Chéri Chéri.
Oui, exact.
C'est ça. Mm. Et il y aura un documentaire sur Armistice Maupin, l'auteur des Chroniques de San Francisco. Mm-hmm. C'est un grand documentaire fleuve et qui a été sous-titré, encore une fois, par les étudiants de l'Université Lumière Lyon 2 en écriture inclusive, puisque cette année, nous donnons le ton. Nos sous-titres sont en écriture inclusive. L'important, c'est l'intention. Et vous verrez que ça ne gêne aucunement la lecture.
C'est d'accord.
C'est quoi l'écriture inclusive, pardon ?
Ah, ben c'est quand on inclut tout le monde dans,
Ah oui, avec les E.
Bon, les S. Voilà. On n'exclut personne.
Et nous, on essaye de faire de la parole inclusive aussi. Alors, c'est difficile, les invités. Mais on y arrive un peu quand même. Voilà. Est-ce que tu voudrais nous parler encore de quelque chose bien spécifique que tu voudrais attirer notre attention sur le festival cette année ? Parce que bon, c'est vrai, comme je le disais, il y a beaucoup de choses dans le catalogue. On n'a pas parlé de tout. On a parlé des principaux traits, je dirais. D'ailleurs, il faut se procurer le catalogue, ni plus ni moins.
Oui, dans les salles.
Dans les salles, voilà.
On clôturera le festival avec un film de genre, un film d'horreur, loup-garou, lesbien. Donc c'est vraiment très original.
Moi, j'adore les films d'horreur LGBT.
C'est au Comédia. Le Comédia, vous savez, qui est très friand de cinéma de genre.
Ouais, ouais.
C'est pour ça qu'on l'a programmé là-bas. C'est une avant-première. C'est un film qui a une critique absolument dithyrambique et qui est bardé de prix partout où il passe. Ça s'appelle Les Bonnes Manières. C'est très original. On avait eu une émission ici, Gérald, qui s'appelait consacrée aux monstres du cinéma. Une émission qui s'appelait Closet Monsters.
Exact.
Qu'on peut retrouver en podcast. Et là, c'est le cas encore avec ce film-là, c'est-à-dire que, à travers cette histoire de monstres, d'enfants monstrueux, loups-garous, enfantés par deux femmes, c'est une parabole sur l'exclusion, c'est une parabole sur la différence, et ça s'inscrit vraiment dans cette tradition-là.
Alors, ce qui est intéressant, Laurent, c'est que nous avions parlé avec Yvan, donc, de la lesbienne dans le cinéma d'horreur. Or, beaucoup de films d'horreur ont des thématiques lesbiennes. Il y a eu un film de lesbienne avec des vampires. Bien et sûr. Souvent, c'est lié aux vampires.
Comtesse Dracula.
Voilà, et puis, oui, Comtesse Dracula.
Et la fille de Dracula.
As-tu vu la fille
qui mord les seins, qui mord les seins.
Oui.
Mais c'était une époque où la lesbienne était forcément représentée par...
par
c'est l'incarnation du mal.
Voilà, voilà, c'est ça.
Mais c'est surréalisé des seins pour pomper du sang directement dedans.
En tout cas, c'est ce qu'elle préférait mordre.
Hein,
et donc, c'est un film d'horreur qui va conclure... d'horreur lesbien ouais. qui va conclure le...
Ouais.
Il n'y a qu'au festival Écran Mix qu'on voit ça.
Ah oui, non, là on avait envie un peu de se lâcher. C'est l'occasion, c'est la fin du festival. On avait envie de finir ça un peu de manière un peu rock'n'roll au Comédia. Ça s'y prêtait.
Laurence.
Je voulais ajouter quelque chose sur Émilie Jouvet.
Oui.
Pour dire à quel point que c'est un personnage important. Mais parce qu'en fait, elle est très discrète, Émilie Jouvet. Mais c'est juste pour dire qu'elle a reçu un prix d'honneur, quand même, au festival LGBT de Bilbao, il y a quelques jours.
Avec des milliers de spectateurs.
Mais c'était énorme, cette salle. Mais c'est un genre théâtre à l'italienne, enfin le truc de malade quoi.
Ouais.
Elle était là, tranquille, sur scène, et c'est pour ça. Si vous voulez rencontrer Émilie Jouvet, voilà, vous venez le 11 mars, vous venez voir Aria. Et
il y aura aussi une rencontre avec Émilie Jouvet au Live Station la veille,
le samedi. Mars.
Une rencontre, donc venez rencontrer de manière autour d'un verre Émilie Jouvet la veille de la projection, c'est l'occasion.
Parfait. Alors avant de saluer tout le monde, parce que l'émission va tourner à sa fin, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Yvan.
Non, c'est parfait.
Voilà.
Il n'y a que Jeffrey qui n'a pas beaucoup parlé.
Oui, bah justement, je veux faire parler Jeffrey, qui n'est pas bravé le froid pour rien.
Ah non, mais c'est toujours un plaisir d'être ici.
Pour venir jusqu'ici.
Je n'avais pas de chronique aujourd'hui, donc...
Voilà. Alors, on va parler un petit peu de toi, Jeffrey, mais je voulais simplement revenir sur le catalogue. On peut le trouver où, le catalogue ?
Dans les
salles de cinéma.
Dans les salles partenaires, Comédia, les cinémas Lumière, les bibliothèques, l'Institut Lumière.
Donc sinon, on peut trouver le programme sur le site internet de Écran
Mix. On peut le télécharger en PDF, bien sûr.
D'accord.
Et on a mis en place un agenda sur le site. Faites votre programme. Mmh. Et surtout, réservez à l'avance, parce que cette année, ça décolle. Mmh.
Voilà. Très bien. Eh ben, rendez-vous à partir du 7 mars jusqu'au 15 mars 2018 pour le festival Écran Mix.
9 jours
de festival.
On remettra ça sur la page Facebook, les préventes. Hein.
Comme d'habitude, on fera tout pour mettre le maximum d'infos sur le festival. Jeffrey, je me tourne vers toi.
Oui.
Petit Jeffrey.
Tourne-toi vers moi.
De face.
Oui, ça va.
Yeux dans les yeux. En ce moment, tu es en vacances, mais tu as été un homme très pris, comme je le disais.
Oui.
Très occupé.
occupé par beaucoup de spectacles finalement, puisque tu en as trois sur, au four, je dirais.
C'est ça, ouais. Voilà. J'étais en tournée depuis mi-septembre. Voilà. Et puis là, ça se calme un peu, donc c'est cool.
Alors moi, j'ai vu finalement... Alors, de tous tes spectacles, je vais expliquer. Alors, j'ai vu la première mouture, à l'époque, ça s'appelait...
Saffold.
Voilà, Jeffrey Jordan Saffold. Maintenant, ça s'appelle Accord Parfait.
C'est ça.
C'est exact. Celui-là, je n'ai pas vu la nouvelle mouture. Mais il y a beaucoup de changements. Il y a un autre esprit.
Il y a des changements dans l'histoire, oui, ouais. Dans le squelette. Puis il y a certains nouveaux sketchs.
Des changements dans le squelette.
Dans le squelette du spectacle.
On était vous, on était un film d'horreur, pour ça je suis un peu resté. Ouais, d'accord.
Et puis voilà, non, mais là je suis en train de le monter sur Paris, donc oui. J'ai une petite équipe avec qui je travaille. Oui. Voilà, donc une belle aventure qui va commencer en septembre.
Alors tu as aussi le spectacle Les Mouches.
Pourquoi Les Mouches ?
Pourquoi Les Mouches ?
Voilà. Que très drôle. Vu, que je n'ai pas vu. Qui a fait un gros carton là à Lyon pendant deux mois.
À l'Espace Gerson.
Ouais, j'étais très 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 heureux, même l'Espace Gerson était ravi. Ouais. Je jouais les mardis soirs pourtant, hein, et c'est pas facile en semaine. Ouais. On était plein tous les soirs pratiquement, donc ça, c'était très très bien. Et il marche très bien, et je vais partir en tournée avec à partir d'avril.
D'accord.
Voilà.
Et c'est lequel des deux que tu joues le plus en fait ?
Ben là, ça s'inverse, la tendance va s'inverser, mais normalement, c'est mon premier spectacle que j'ai joué le plus souvent. Hein.
Ouais. Il s'appelle donc Accord Parfait.
Accord Parfait maintenant, ça s'appelle. Voilà.
Alors, moi, j'ai vu par contre la veille du jour de l'an avec mon petit chéri, on s'est fait une petite sortie.
Vous êtes allé voir quoi ?
On a été voir le trio.
Ah oui, c'est
avec
vrai.
Tes collègues.
C'est vrai. Ouais, ouais. Et vous avez vécu un 31 décembre
oui, c'était
explosif.
Bien. C'était bien parce que, après, tu m'as envoyé un message en disant c'était un peu spécial. Comme... Mais bon, je ne pas rendu compte.
Mais je crois que le soir où tu es venu, c'était une plantation bizarre.
Un trou de mémoire, je veux dire.
Oui, bien sûr,
à un moment
compris.
Donné. Voilà.
Ah bon ?
Oui, non, t'as pas eu un moment
non,
donné.
Je sais pas. Non, mais le public était très bizarre ce soir-là.
Ah bon, ouais. D'accord.
Sur toute la présentation, on a eu un public un peu bizarre ce soir-là.
Ah bon.
Je me souviens.
C'était parce qu'on était là.
Peut-être, ouais. Je crois que tu attires les mauvaises ondes.
Ça influe sur votre façon de jouer.
Ah oui, tout à fait. Ouais. Ben, disons qu'on s'ennuie plus quand le public réagit pas.
Et là, le public a pas réagi.
Ou mal, ou il y a des fois le public est pas dedans. Hein. Puis c'est tout. Le public n'adhère pas à l'univers parfois.
Et donc vous ramez sur terre, sur scène.
Bah, on joue de façon mécanique, du coup on n'est pas très agréable quoi. Ah. On s'amuse moins.
Il n'y a pas l'énergie qui fait la magie du spectacle.
C'est ça. Voilà.
Mais pourtant c'est un spectacle qui plaît d'habitude.
Ah oui, ils plaisent tous. Hein. Les trois spectacles que je joue plaisent. Hein. Mais il y en a un qui est un peu plus clivant, c'est Pourquoi les mouches, puisque le texte est très écrit et c'est très dense. Voilà, c'est une conférence, donc voilà. Et en plus c'est absurde, donc.
Voilà. Et drôle.
Ah oui, et très drôle, ouais. C'est très drôle. C'était la dernière mardi soir. Et
Jeffrey était très humoriste à la base, donc ça a intérêt à être drôle.
Voilà. Écrit par Martin Foresti.
Oui.
Qu'on salue.
Voilà. Donc, mais pour revenir au spectacle donc, que j'ai vu du trio, comment s'appelle ce spectacle d'ailleurs ?
Ils font l'humour à trois.
Ils font l'humour à trois, voilà. Moi, enfin, personnellement, je n'ai pas ressenti ce que tu dis. On a passé un bon moment. Mmh. Parce que c'est des extraits de plusieurs spectacles, en fait. De chaque humoriste, chacun un spectacle.
Voilà, on présente un extrait de nos solos.
En mettant une liaison.
Dans une pièce.
Voilà, dans une pièce. Puis il y a une liaison entre les trois personnages, quoi. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qui se passe.
La tête
de Laurent, c'est mort de rire.
Je crois que c'est le générique de fin qu'on écoute.
Dans les oreilles, c'est passé quelque chose.
Donc on rappelle. Alors merci Jeff. Donc pas de date à annoncer pour l'instant.
Pas à Lyon. Le 3 avril, juste au complexe du Rire, le 3 avril.
D'accord.
C'est dans pas longtemps.
Avec.
On fait la captation. Non, on fait la captation du DVD pour. D'accord. Pourquoi les mouches.
D'accord, très bien.
Ça va être chouette.
Un mois de vacances, quoi.
Non, je suis en tournée quand même après. Hein, oui. Dans deux semaines.
Un public chaud pour
à Vienne. C'est ça. T'es passé à Vienne, au fait. Tu devais passer à Vienne.
Fin mars.
Tu l'as fait. C'est fin mars. D'accord. Parce que j'ai des copines là-bas, on ira certainement.
Ah bah génial.
Voilà. Donc du coup, merci à tous d'être venus ce soir.
Merci à tous.
D'avoir bravé le froid. Merci. Alors un petit mot spécial quand même pour Bernard, parce que je le malmène un petit peu à l'émission.
Mais il aime bien.
Mais il aime bien, je sais pas.
Si,
on
si,
dit bien qu'il aime bien, qui aime bien châtie bien. Mais Bernard, merci d'avoir été présent.
Merci Bernardo.
Voilà.
Merci Bernard.
D'avoir affronté le froid polaire.
Sibérien.
D'avoir failli être transformé en...
En bloc de glace.
En homme de glace.
Bernard, la folle
en
des manettes.
En sasquatch.
On dirait Yeti, regarde.
Mais il est là, en attendant, fidèle au poste, quand on a besoin de lui, nous le remercions.
Et là, c'est encore un clin d'œil au festival, puisque c'est la chanteuse mexicaine.
Ah, de Chavela Vargas. Bravo.
Bravo Bernard.
Alors ça, c'est top. Merci Fabrice d'avoir été énervé pour nous ce soir, une nouvelle fois.
On aime bien quand t'es énervé.
Oui, alors toi aussi, tu es un homme très occupé, puisque ton métier fait que tu voyages beaucoup. Voilà. Et de temps en temps, quand tu es dispo, tu nous fais la gentillesse de venir nous voir.
Ouais,
et nous apprécions, énormément. Jeffrey, ben voilà, c'est Jeffrey. Quoi,
tout de bon, hein.
Hein, voilà.
On va tous se souhaiter un beau futur.
Voilà.
On a l'impression qu'on va se quitter pour à tout jamais. Et avec la musique derrière.
C'est pas Nina Hagen, mais ça fait pas même.
Je vais m'enrouler le câble de mon casque autour du cou. Ça va pas tarder.
Et merci Yvan. Et bon succès, évidemment, au Festival Écran Mix.
Mercredi prochain, ça commence.
Voilà. Institut Lumière.
Eh oui,
20h. Alors, comme on y sera, enfin, je sais pas si tu y seras, moi j'y serai, il y aura pas d'émission. Hein, il y aura une bande sonore qui passera. Avec tes tubes, des derniers tubes, Laurence. Enregistrera les derniers tubes et on passera. Merci Lolo.
Merci Gérald.
Merci Laurence.
Merci à tous.
Voilà. Et puis on t'attend au festival, donc aussi, ouais. Avec Émilie Jouvet.
Le 11 mars, avec Émilie Jouvet.
Très bien.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.